France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors depuis cet après-midi, vous suivez avec nous sur France Info l'investiture du 45e président des États-Unis, Donald Trump, et l'événement est suffisamment important puisqu'un scientifique a décidé de nommer une nouvelle variété de mythe mexicaine, Neopalpa Donaldo Trumpi. Voilà, alors frappé par la ressemblance, c'est vrai, hein, entre les écailles dorées de la mythe et la chevelure du magnat de l'immobilier. Ça valait le coup de le souligner quand même. Et les informés de France Info, en très grande partie consacrés au nouveau président américain. On parlera également de la primaire de gauche. Et ce soir, on fait le plein un peu autour du plateau. Nous recevons Paul Ackermann, du Huffington Post, bonsoir.
Bonsoir.
Également Virginie Petit, International, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Claude Jaillet de Marianne, bonsoir.
Bonsoir.
Anne-Elisabeth Moutet, et vous êtes éditorialiste au journal britannique The Telegraph, bonsoir.
Bonsoir.
Et Axel Croze, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant à Paris du Transatlantique Magazine. Donc tout le monde est en place, hein, c'est formidable. Et magie des médias, magie de l'instant. On va filer à Washington, et oui, à quelques mètres de la Maison Blanche, au News Museum, retrouvez Fabienne Synthèse. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Alors, vous suivez pour France Info, depuis cet après-midi, donc la cérémonie d'investiture donc de Donald Trump. Juste une question au départ, l'organisateur de la cérémonie d'investiture avait évoqué une ambiance sensuelle. Alors, est-ce que c'était le cas, Fabienne?
J'ai pas tellement vu de sensualité, mais j'ai peut-être pas regardé où il fallait, vous me direz. Ou peut-être que la sensualité a un peu pris l'eau, parce qu'il y a quand même eu une petite pluie fine sur Washington pendant à peu près toute la journée. Donc non, j'ai pas vu de sensualité. J'ai vu une ambiance trumpienne, on va dire.
C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh ben, ça veut dire que Donald Trump a fait du Donald Trump. Vous savez qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir s'il finirait par endosser d'autres habits, le président Trump, parce qu'il faut l'appeler le président Trump maintenant, lorsqu'il deviendrait officiellement président, si son discours changerait un petit peu, s'il aurait une tonalité, et puis qu'au contact du réel, ben, à un moment, les choses se passent un peu différemment. Pas du tout, en tout cas dans le discours qu'il a donné, c'était du pur trumpiste, des discours comme on a pu en entendre pendant la campagne, en utilisant même des mots qui sont les mêmes, hein, only America first. Si on l'a pas entendu une fois dans la bouche de Donald Trump, de Donald Trump, on l'a pas entendu 100 fois. Pareil pour beaucoup de choses comme ça. Et en gros, ce qui était fascinant en fait, et c'est ce qu'on a un peu relevé ici, que Thomas Tegaroff et Frédéric Carbone relevaient, c'était au fond dans ce discours, de manière assez inédite, zéro référence à ce qu'est l'histoire de l'Amérique, à ce que sont les prédécesseurs présidents américains de Donald Trump, à ce que l'Amérique a déjà construit sur cette base-là, lui montrer quelque chose de neuf. Non, il nous a décrit quelque chose de complètement chaotique, il nous a décrit le déluge total, il a même employé le mot de carnage, et après lui, le salut. En gros, c'est un petit peu ce qu'il nous a promis. Alors, et tout ça, il faut quand même le souligner devant des gens. Hein, il y avait de la foule, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a des gens qui sont venus l'écouter. Il y a quand même des gens qui ont... Il y a la moitié de l'Amérique qui a voté pour cet homme. Mais une foule nettement moins compacte, on va dire, qu'on aurait pu peut-être s'y attendre. Ce sera intéressant lorsqu'on aura une vraie photo et quelques chiffres de savoir combien il y avait réellement de personnes devant le Congrès aujourd'hui.
Juste une chose, Fabienne Synthèse, l'image frappante également, bien sûr, il y a ce discours, mais il y a également Donald Trump voilà, devant les membres du Sénat, du Congrès, des gens qu'il a critiqués, injuriés pendant sa campagne. Ouais. C'est ça qui paraît assez étonnant. Ça veut dire quoi maintenant? C'est un des leurs, ou au contraire, c'est lui qui va les mettre dehors?
Et ça, c'est complètement étonnant, parce que même jusqu'au bout, le début du discours de Donald Trump était une charge contre Washington d'une violence absolument infinie. Ces gens, en gros, je vous la fais courte, mais c'est à peu près ce que ça dit, n'ont jamais rien fait, n'ont toujours que servi leurs propres intérêts et sont des imbéciles. Et c'est devant ces gens qu'il est en train de déjeuner, là. C'est avec eux qu'il est en train de plaisanter, c'est avec eux qu'il a signé les premiers papiers. Vous savez qu'ils sont... Alors, Frédéric Carbone me fait signe que peut-être il s'endort, là, parce qu'au moment du déjeuner, il s'endort, mais c'est parce qu'il a mauvais esprit. Vous savez ce que c'est quand après une investiture, il y a des papiers officiels qui sont pas bien graves en fait à signer, des choses qui sont du domaine du protocole, etc. Et quand on signe des papiers de ce genre-là, vous savez que les présidents donnent les stylos en fait. Et autour de lui, vous aviez tous ces gens qu'il a insultés. Vous aviez Nancy Pelosi, qui est responsable des démocrates à la Chambre des représentants, notamment, qui voulait le petit stylo plutôt que le grand stylo. Enfin, c'était quand même une scène absolument surréaliste devant cet homme qu'il déteste à un point que vous n'imaginez pas, et qui surtout les a totalement insulté pendant la première partie de son discours, et qui continuera probablement à le faire dans les semaines qui viennent.
Merci beaucoup Fabienne Synthèse. On vous retrouve à la fin de cette demi-heure pour continuer à parler de ce qui se passe en ce moment à Washington. Axel Croze, c'est vrai que le début de ce discours, je le cite, hein, Donald Trump, nous transférons le pouvoir de Washington à vous, le peuple. C'est très violent envers le Sénat, le Congrès américain.
C'était populisme pur.
C'était pas réfléchi, sauf dans la tête de Trump. Et la première chose qui m'a frappé, c'était la question que tout le monde se posait ces dernières semaines, c'est que est-ce qu'on va voir un autre Donald Trump président par rapport à Donald Trump candidat? Et comme on vient de voir, d'entendre, la réponse est là, on a eu Donald Trump. Pur. Et ma réaction était à la fois une grande déception, parce que j'avais l'espoir, comme beaucoup d'Européens et beaucoup de gens dans le monde, de voir peut-être éventuellement un petit indice d'un programme et la question de comment il allait faire ça. Il faut bien savoir que c'était une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre contre des élites, qu'on vient de mentionner, mais pas seulement. Il y avait une attaque très claire contre l'étranger.
Oui, c'est ça. Axel, on va continuer à en parler dans un instant, mais je voudrais juste avoir Anne-Elisabeth Moutet. Pour vous, c'est quoi ça y est, le vrai Trump, finalement, on pensait qu'il changerait, il ne change pas, c'est le même.
Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. J'ai sous les yeux le texte du discours de Trump et je trouve que c'est un vrai discours politique. C'est un discours politique avec des marqueurs spécifiques. Simplement, on n'a pas l'habitude de les entendre. Et ce sont des marqueurs politiques à différents endroits, et en particulier, tout ce qu'il y a sur la religion est extrêmement important. Il y a tout de même une majorité importante. Il y a 70 millions de chrétiens évangélistes aux États-Unis. Il leur envoie des signes. Et ça n'est pas une déclaration de guerre aux élites tant que c'est une déclaration aux oubliés, qu'enfin ils ne sont plus oubliés. Alors il y a une chose qui était très frappante, on peut regarder si on veut pour une fois le fil de Fox News sur Internet, et on peut aussi regarder d'ailleurs sur YouTube, CNN et NBC, et on voit les gens qui sont venus dans leur propre voiture, en traversant le pays la nuit, etc., parce qu'ils ne sont pas riches, pour assister à la victoire de Trump. Ils sont de toutes les couleurs, ils sont vraiment, ce sont des gens qui, eux, ont entendu un discours politique, et pas un discours de haine, il y a des choses qui sont au contraire un discours de réconciliation à la fin du discours.
On va le détailler dans un instant, l'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Du nouveau ce soir dans l'affaire de Viry-Châtillon, 7 personnes mises en examen et écrouées pour tentative de meurtre après l'agression de 4 policiers. En tout, 11 personnes ont été interpellées mardi, 4 ont donc été relâchées. L'agression de policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne en octobre avait donné lieu à un mouvement de grogne sans précédent des gardiens de la paix en France. America First, à partir d'aujourd'hui, ce sera l'Amérique d'abord. Le discours d'investiture du président Trump sur les marches du Capitole à Washington. Le milliardaire est devenu ce soir le 45e président des États-Unis. Ma présidence va montrer la voie à l'Amérique et au monde pour des années, a lancé Donald Trump à la foule. Pour son premier discours de président, il a ressorti son thème favori, le protectionnisme, et énoncé deux règles, acheter américain et embaucher américain. Discours d'une vingtaine de minutes qui s'est achevé sous la pluie. Au moment de quitter la Maison-Blanche, Barack Obama a fait ses adieux de président sur Twitter. Cela a été un honneur de vous servir. Vous avez fait de moi un dirigeant et un homme meilleur. Dernier tweet de Barack Obama sur le compte officiel du président américain POTUS. Les pompiers italiens annoncent ce soir avoir extrait vivant 3 enfants des décombres après l'avalanche de mercredi soir qui a dévasté un hôtel dans le centre de l'Italie. La course contre la montre se poursuit pour sortir 7 autres survivants qui seraient toujours en vie. Ils seraient blessés selon un porte-parole des pompiers italiens. Une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de l'investiture de Donald Trump. Ça y est, c'est fait. En ce moment, c'est le 45e président des États-Unis. Paul Ackerman, ce discours, justement, vous l'avez suivi. Vous, c'est quoi au contraire, populiste ou alors il colle avec les Américains?
C'est pas dans cette dualité-là que je le situerais, mais j'ai vraiment entendu un discours de campagne, en fait, de candidat.
Toujours.
Toujours, qui était fidèle à sa campagne. Donc, en tout cas, ça, c'est sûr qu'il est fidèle au candidat qu'il a été et qui se termine sur son slogan Make America Great Again, mais martelé à toutes les sauces, décliné sur la richesse, le succès, etc. Donc, ce que j'attends encore, c'est effectivement les actes, à quoi ça va ressembler les actes d'un discours comme ça. Et effectivement, un discours de président, ça, je sais pas si ça arrivera une fois.
Virginie Le Petit, pour vous, justement, c'est un discours quoi, de candidat, de président. C'est vrai que, comme le disait Axel Kroos, sur l'étranger, il a quand même sorti cette phrase qui est quand même assez étonnante sur les emplois. Il a dit « Il faut empêcher les autres pays de voler nos emplois ».
Oui.
Alors bon,
il est dans la continuité. Enfin, je veux dire, tous ces tweets et ces menaces qu'il y a eu sur les constructeurs automobiles et dans les semaines qui ont précédé, c'était exactement ce discours-là finalement répété à l'envi. Donc il est dans la continuité, mais il est déjà passé aux actes. Hein. À midi sur le site de la Maison Blanche, il n'y avait plus de pages consacrées au réchauffement climatique.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est fait. Il va nommer très rapidement des juges, une centaine de juges, 120, je crois, et un juge à la Cour suprême. Et ça, c'est un instrument de pouvoir. Ça va aller très vite aussi. Donc, de toute façon, après, il est dans la continuité du candidat Trump. Il est fidèle à lui-même. Et c'est ça, la surprise, oui, finalement, c'est qu'il n'a pas changé de discours.
De paradigme, en fait, c'est oui. Ça. Alors, juste une chose, Axel Kruse, vous avez vu quelques discours dans votre vie de journaliste de président américain. Vous m'avez dit en arrivant, pour vous, ça a été le discours le plus violent que vous avez connu.
Le plus radical.
Plus radical.
Le plus radical, peut-être depuis le XVIIIe siècle. Même George Washington, quand le premier président qui a dit qu'il faut se méfier des accords avec des pays à l'étranger, qu'on reste seul, etc. C'est un leitmotiv que Ronald Reagan, par exemple, a évoqué. Mais ce qui est très... La grande déception, pour terminer cette idée de la guerre, il a donc, à mon avis, il a certainement attaqué les élites. Il a annoncé... que quasiment des alliances n'existent pas.
C'est ça.
Il n'y avait pas tout le système qui était créé après la guerre, la Banque mondiale, l'OMC, toutes les choses qui étaient dans la tradition de la politique commerciale et internationale des États-Unis étaient totalement absents. Le grand absent, évidemment, dans ce discours, et c'est pourquoi il y a beaucoup de déceptions et de frustrations, c'est comment faire. Quel est le programme, quel est l'agenda de Trump. Et apparemment, il a décidé carrément de s'exprimer. C'est lui qui a écrit ce discours. C'est exactement le discours qu'il a fait.
Il avait dit qu'il voulait s'inspirer finalement presque de Kennedy. Il avait revu des discours également de Kennedy.
Oui, mais le discours de Kennedy avait aussi beaucoup d'éléments de programme et de choses qu'on pouvait faire. Et encore une fois, comme disait un commissaire européen que j'ai vu l'autre jour, qui a dit « wait and see ». C'est la seule chose qu'on peut faire, de « wait and see », de voir ce qu'il va faire.
On n'aura pas longtemps à attendre parce qu'il a... Il a juste promis de signer des décrets et des abrogations dès cette nuit.
Oui, mais lesquels, pour quel faire? Il a dit aussi qu'il voulait voir Theresa May tout de suite pour avoir une relation poussée.
On va en parler dans un instant de ça, mais oui. Jean-Claude Jayet, c'est vrai que Donald Trump est devenu un fantasme pour les populistes du monde entier. Hein, c'est vrai que c'est lui son protectionnisme. On se souvient de ces photos un peu presque gênantes de Marine Le Pen au Starbucks en bas dans la Trump Tower. C'est aujourd'hui vraiment lui la référence de toutes ces personnes.
Pour Marine Le Pen, c'est une référence, effectivement. Encore ce matin, on l'entendait dire qu'elle se vantait de faire comme lui sur un tweet, renverser la table et renverser l'économie, l'organisation de l'économie. Maintenant, je trouve que finalement, à y réfléchir un peu... Et c'est peut-être mieux pour elle qu'elle n'ait pas rencontré Donald Trump comme elle cherchait à le faire, parce que elle est engagée quand même dans une politique d'élargissement de son électorat qui passe par la dédiabolisation et par la normalisation et par la prise au sérieux. Et finalement, à coller son image avec celle de Donald Trump, qui est quand même dans l'excès, qui ressemble plus à celle aux pratiques de son père qu'à ce qu'elle veut faire, c'est extrêmement dangereux. Alors... Et se retrouver mêlé et rapproché de gens comme Steve Bannon qui lui sert d'intermédiaire auprès de Donald Trump, c'est extrêmement dangereux puisqu'elle veut se sortir de cette image de xénophobie, d'antisémitisme. Elle retombe, elle se rapproche de gens
dans les vieux démons.
Dans ces vieux démons.
Alors, juste une chose, juste avant Elisabeth Moudet, une chose, Axel Kruse, il y a juste Donald Trump qui... Hier, avant d'être investi présent, a dit moi, ce que je veux, c'est rassembler les Américains. Vous êtes Américain. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Donald Trump peut rassembler les Américains?
Je crois que non. D'abord, vous avez qu'à regarder le vote populaire. Des millions de gens qui ont voté pour Hillary Clinton, il n'y avait pas un mot pour elle. C'était une chose qui n'est pas obligée de faire. Mais George Bush l'avait fait, vis-à-vis Al Gore. On avait toujours une tradition d'avoir un mot sur des autres gens qui étaient présents. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas seulement America First, mais America seule.
Mais quand il a gagné l'élection, la première chose qu'il a dit dans son discours, c'est qu'il avait beaucoup d'admiration pour Hillary Clinton et qu'elle et son mari avaient servi les États-Unis de manière remarquable. Alors, la première fois où il s'exprime quand il a gagné l'élection en novembre, c'est pour remercier Hillary Clinton, je suis désolée. Ouais. On la voyait dans le live stream de l'élection, en ce moment, elle est invitée à l'un des trucs de l'inauguration. Elle y est.
Mais depuis l'élection, il n'a pas arrêté de tweeter sur les Hillary lovers, de les insulter.
C'est pas la même chose que Hillary Clinton, les Hillary lovers.
Alors, excusez-moi, juste pour préciser, pour la carrière, qu'est-ce que c'est que
c'était
lovers
Meryl Streep, Arnold Schwarzenegger. L'insulte suprême sur le compte Twitter de Trump, c'est d'être un Hillary lover.
Ah oui, d'accord.
Alors, il se fait absolument insulter par Meryl Streep, qui, dans cette scène politique absolument extraordinaire qui est les Golden Globes, explique à quel point le monde va changer, c'est horrible. Il répond.
Elisabeth, est-ce que finalement un président élu a répondu? Est-ce que franchement aujourd'hui,
le fait qu'il ait à répondre, non, et ça va être intéressant. Mais encore une fois, je pense qu'il faut, cesser, nous, si on veut essayer de savoir ce qui va se passer avec Donald Trump, d'abord, il faut essayer de le confondre avec Marine Le Pen. C'est pas par hasard qu'il l'a pas vu. Et entre parenthèses, l'intermédiaire de Marine Le Pen n'était pas Steve Bannon, il la connaît pas, mais c'était un autre intermédiaire.
Mais alors, juste Steve Bannon, donc, qui est propriétaire du site.
C'est lui qui est chargé des relations avec les
il est chargé de la stratégie à la Maison Blanche, ce qui est une chose entièrement différente. Et c'est un type intéressant, Steve Bannon. La diabolisation de Steve Bannon est aussi quelque chose.
Elisabeth, on peut pas dire que son site soit quand même très intéressant, quand même.
Son site est extrêmement intéressant. Son site, il a commencé il y a quelques années, et c'était le Huffington Post de droite. Et puis, progressivement, non, il n'est pas antisémite. Et je vous jure que c'est quelque chose sur lequel je suis assez sensible.
On peut dire beaucoup de choses.
Ça ne l'est pas. C'est un site tabloïd qui a le même langage que les tabloïds anglais, etc. Mais ça n'est pas un titre antisémite, contrairement à ce qu'on peut raconter.
Pendant la campagne, il y avait deux Européens qui ont fasciné l'entourage de Trump, surtout Steve Bannon. D'abord, il était fasciné par la nièce de Mario
Maréchal Le Pen.
Oui. C'est ça. Pour lui, elle était un rock star. C'est quelqu'un qui est vraiment l'avenir de le mouvement populiste, etc., à droite, qu'il aime beaucoup. Et l'autre modèle, c'était plus discutable, mais il l'a dit plusieurs fois, pour lui, le modèle, c'est quand même Berlusconi en Italie. Et ce sont des deux Européens qui ont beaucoup intéressé.
On y vient, c'est parce que vous voyez en face de vous, il y a un garçon qui va nous donner des infos. Voilà, et c'est l'info à 20h20, c'est Pierrick Bonneau.
Il était midi précise à Washington, 18h à Paris. Donald Trump a prêté serment pour devenir le 45e président des États-Unis. Le nouvel homme le plus puissant du monde a prononcé un discours d'investiture très protectionniste. America first, l'Amérique d'abord. Le milliardaire promet entre autres d'éradiquer le terrorisme islamique radical et de créer de nouvelles alliances. On pense bien sûr à la volonté de rapprochement avec Moscou. Barack Obama a quitté Washington avec sa famille pour des vacances en Californie. Et alors que le désormais ex-président donnait les clés de la Maison Blanche à Donald Trump, des incidents ont éclaté dans le centre de Washington. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser plusieurs centaines de manifestants masqués et habillés de noir. Des vitrines et des pare-brises ont été brisées. 95 arrestations au total à Washington, bilan donné à l'instant par la police. On reste aux États-Unis où le célèbre narcotrafiquant mexicain El Chapo doit être présenté à un juge de New York dans les heures qui viennent. Il a été extradé hier. Joaquin Guzman, de son vrai nom, est inculpé de 17 chefs d'accusation, rien que ça. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir bâti l'un des plus puissants empires de la drogue de notre époque. Nouvel épisode de pollution particules fines demain à Paris. Le stationnement résidentiel sera gratuit partout dans la capitale. La mairie de Paris appelle les habitants à emprunter prioritairement les réseaux de transport en commun, le covoiturage ou à utiliser des véhicules peu polluants.
Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de l'investiture de Donald Trump et la question, là, on parlait de Steve Bannon, son conseiller stratégique, un homme très polémique. Justement, avec qui va-t-il gouverner Donald Trump? Alors, il faut savoir que la plupart n'ont pas d'expérience, les ministres qu'ils souhaitent nommer. Et il y a une vidéo qui a beaucoup tourné sur Internet, c'est une vidéo assez révélatrice, c'est l'audition de la nouvelle ministre de l'Éducation, donc Betsy DeVos. C'est une audition où elle a du mal, voilà, cette femme qui est milliardaire, elle a du mal à distinguer collège et université. Alors déjà, c'est un peu compliqué quand on veut être ministre de l'Éducation. Et il y a une question qui est posée par un sénateur et une réponse de Betsy DeVos, vous allez l'entendre, c'est digne des Monty Python.
Pensez-vous que les armes ont leur place dans ou autour des écoles? Je pense qu'il vaut mieux laisser les pouvoirs locaux en décider. Si votre question sous-entend que...
Vous ne pouvez pas me dire clairement aujourd'hui que les armes ne devraient pas avoir leur place à l'école ?
Eh bien, je me référerai à ce que disait le sénateur Enzi dans les écoles dont il parlait, à Wapiti, dans le Wyoming. Je pense que, probablement, là-bas, j'imagine qu'il y a probablement une arme dans les écoles pour se protéger contre les grizzlies.
Voilà, donc Betsy DeVos, donc voilà, l'audition donc de cette femme. Virginie Petit, c'est ça, c'est aussi les gens dont il s'entoure, Donald Trump. On voit des personnes, lui, il dit par exemple protectionnisme, et en même temps, il nomme un ministre des Affaires étrangères, donc d'Exxon Petrol, donc qui fait des affaires avec l'étranger, oui. Qui lui n'est pas dans cette ligne-là. C'est ça, on se dit comment tout ça peut marcher.
Alors, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, il n'est pas une contradiction près. Il s'entoure de gens de confiance. C'est comme ça que fonctionne son entreprise aussi. C'est beaucoup basé sur un réseau familial et de gens de confiance avec lesquels il a travaillé. Et par ailleurs, effectivement, donc, il nomme des gens à des postes qui sont soit en contradiction avec lui, soit directement en contradiction avec les postes auxquels il les nomme. C'est-à-dire que l'EPA, l'Agence pour l'environnement américaine, il faut que je reprenne mes notes, va avoir à sa tête Scott Pruitt, qui est quelqu'un qui a combattu l'IPA pendant très longtemps et qui là va se retrouver à la tête de cette agence qui est un climato-sceptique ou plus ou moins. Voilà, il y a donc Betsy DeVos, on l'a vu sur l'éducation, c'est voilà.
En même temps, à côté de ça, il nomme sur les services de renseignement une personne qui est persona non grata en Russie, alors qu'on dit qu'il lui est proche de Vladimir Poutine.
Oui.
C'est ça qui est étonnant.
C'est ça qui est étonnant. Après, bon, sur les services de renseignement, c'est pas non plus les affaires étrangères. Donc, oui. C'est quelqu'un qui, normalement, ne devrait pas avoir à côtoyer Vladimir Poutine, on l'espère en tout cas.
Normalement. Donc,
oui, mais il fonctionne visiblement quand même beaucoup sur la confiance et pas forcément les compétences.
Voilà. Alors, pour savoir justement ce qui se passe, nous avons une personne qui est de l'autre côté de l'océan. C'est normalement Fabienne Saintès que l'on doit retrouver dans un instant. Et voilà, vous êtes là, Fabienne.
Mais
voilà, c'est formidable. On a parlé à l'instant, Pierrick Bonneau parlait aujourd'hui là, de manifestations plutôt violentes. Est-ce que vous avez ressenti ça au cours de la journée ? Est-ce qu'il y a des protestations présentes, des contestataires présents à Washington aujourd'hui ?
Alors, pas tellement au cours de la journée, en fait. Alors, nous, on s'est retrouvés enfermés quand même assez vite quand il a fallu commenter la cérémonie, mais on savait et on les a vus d'ailleurs qu'il y a plein de petits groupes comme ça divers et variés qui allaient graviter autour du mall, donc autour de l'endroit où se tenaient les cérémonies. Il y en a eu des petites manifs comme ça, il y en a eu 99 dans la semaine, imaginez, il y en avait une soixantaine aujourd'hui, dont 23 qui étaient réellement autorisés. Donc ça c'était clair et net et la plupart étaient parfaitement pacifiques. Vous savez, il y a l'idée aussi, et c'est d'ailleurs le sens de l'inauguration, de respecter aussi le sens de la démocratie, et ça existe également chez les gens qui comptaient manifester aujourd'hui. Puis là, effectivement, il y a un petit groupe. On est vraiment dans les protestataires habituels de vous savez, des G20 ou des endroits comme ça. Donc, on est dans l'équivalent de ce qui serait les Black Blocs chez nous, des choses de ce genre-là, qui sont en train, effectivement, de casser beaucoup de choses, notamment, alors c'est quand même intéressant, il y a eu 95 arrestations, preuve que c'est pas simplement de la rigolade. On est sur K Street. On est autour de K, la 7e, je crois, et K Street, symboliquement, c'est important parce que c'est la rue des lobbyistes, en fait. D'accord. Tous les lobbyistes de Washington sont installés sur cette rue qui est effectivement à deux pas de la Maison Blanche, et donc quand on casse les vitrines et quand on détruit K Street, on envoie un message qui est tout à fait conforme à ces espèces de blocs identitaires qui sont assez habitués à ce genre de comportement.
Une chose, Fabienne, on va en parler dans un instant dans les informés de France Info, cette contestation anti-Trump, demain sont attendues justement cette marche des femmes à Washington. Alors, est-ce que déjà on sent des prémices ? Est-ce que on pense qu'il va y avoir beaucoup de monde ou pas ?
Ouais, apparemment oui, en tout cas le mot est vraiment très très bien. Vous savez, il faut quand même rappeler un chiffre qui est assez étonnant, hein. 90% de Washington a voté pour Hillary Clinton, voilà, et 4% a voté pour Donald Trump. Donc globalement, les Washingtoniens aujourd'hui sont allés faire un tour ailleurs pour pas être ennuyés, et demain en revanche sont dans la rue. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va se passer. Donc oui, il risque d'y avoir beaucoup de monde à cette marche des femmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a lieu le samedi et pas en même temps que les multitudes d'autres manifestations. Vous savez ce qu'on entend aux États-Unis, c'est une espèce de forme de résistance qui s'organise à l'idée d'un après, de ce qui se passera pendant ces 4 ans-là. Mais oui, on attend. Alors, compliqué de donner un chiffre, mais on a entendu parler autour de 200 000 personnes. On verra demain. Mais oui, il y aura beaucoup de monde. Ouais.
Merci beaucoup, Fabienne Saintès. On vous retrouve dès 22h avec Matteo Maestracci et bien sûr Thomas Negaroff et également Frédéric Carbone pour continuer à parler, à discuter de cette investiture de Donald Trump. Nous aussi, on va continuer à en parler dans un instant avec cette contestation justement anti-Donald Trump. Il y a un petit côté en plus people. Voilà ce qu'on vous prépare. Et puis, on parlera également de la primaire de la gauche. Et oui, il y a un moment, il faut bien revenir en France aussi. Voilà le programme à suivre dans les informés de France Info. We'll be right back.
froid.
Ça fait augmenter notre consommation d'électricité, ça.
Et comme on est tous raccordés au même système électrique, il est mis à rude épreuve.
Alors on fait tous un effort pour économiser l'électricité, surtout le matin et entre 17h et 20h. Par exemple, en baissant le chauffage d'un seul degré ou en faisant tourner son lave-linge la nuit. On évite ainsi les coupures et en plus, on fait un geste pour le climat.
Ensemble, économisons l'électricité. Découvrez tous les gestes d'hiver sur développementdurable.gouv.fr ou au 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Un message du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME.
Jumping International de Bordeaux avec France Info. Vivez 4 jours de compétition à couper le souffle avec l'élite des cavaliers internationaux, des épreuves sensationnelles et beaucoup de suspense. Et découvrez le monde de l'équitation avec le salon Jumping L'Expo. Jumping International de Bordeaux, parc des expositions du 2 au 5 février en partenariat avec France Info.
France Info Météo avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques qui propose aux patients et aux professionnels de santé la plus grande armoire à pharmacie du monde.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore du soleil demain, bien présent dès le matin sur la plupart des régions. Sur le Roussillon, ça restera gris avec quelques averses le matin. Sur la Côte d'Azur, le vent soufflera jusqu'à 100 km à l'heure. Du vent fort aussi pour la Corse, beaucoup de nuages, quelques averses. Dans la nuit et dimanche, les pluies se renforceront. Elles seront fortes, parfois orageuses. Il neigera à partir de 1500 mètres. Ce sera perturbé aussi autour de la Méditerranée dimanche avec des pluies et du vent. Demain matin, encore moins 11 degrés à Reims, à Grenoble, moins 4 à Paris et à Nantes, mais 1 degré pour Toulouse, pour Nîmes, 6 en Corse. L'après-midi, seulement 1 à 4 degrés sur le nord, le nord-est, 4 à 7 du nord-ouest au Lyonnais et 9 à 15 du sud-ouest à la Méditerranée.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Diane Ferschit. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le nouveau président des États-Unis veut placer l'Amérique d'abord et seulement l'Amérique. Donald Trump investit aujourd'hui 45e président du pays. Il a prêté serment au Capitole à Washington, un discours d'investiture très offensif qui correspond à ce que ses partisans attendaient de lui à l'image de Jack venu du New Jersey assister à l'investiture.
Je suis un grand fan du président Trump. Le pays avait besoin de lui. C'est comme s'il n'y avait pas eu de leader ces 8 dernières années dans tous les domaines, qu'ils soient sociaux, économiques ou militaires. Le président Trump dit ce qu'il veut faire depuis 2 ans. Il n'a pas arrêté de dire les mêmes choses et il les a redites aujourd'hui. Nous avons tous le sentiment que nous avons maintenant un leader aux commandes avec des politiques à mener qui correspondent au slogan du président Trump, l'Amérique d'abord. L'Amérique veut diriger le monde, mais on ne peut faire ça qu'en étant devant, pas derrière.
Et en marge de l'investiture de Donald Trump, des manifestations de protestation étaient organisées dans le centre de Washington. Certaines d'entre elles ont dégénéré. 4 à 500 manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. 95 d'entre eux, au moins, ont été arrêtés. Des dizaines de secouristes continuent à fouiller sans relâche les décombres de l'hôtel italien enseveli par une avalanche mercredi. Ils espèrent découvrir d'autres survivants du drame. 10 survivants au total ont été retrouvés aujourd'hui dans les décombres de cet établissement des Abruzzes. Cette jeune mise en examen ce soir dans le cadre de l'enquête sur l'agression de policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Ils sont mis en cause pour tentative de meurtre. L'agression des 4 agents au mois d'octobre dernier avait déclenché un mouvement de colère de la part des forces de l'ordre. Les 7 jeunes ont été placés en détention ce soir. L'affaire des prothèses mammaires PIP. Le certificateur allemand TÜV, condamné par la justice française, a payé 60 millions d'euros aux victimes. 20 000 femmes ont porté plainte contre la société PIP. Celle-ci a rempli pendant des années ces implants avec un gel dangereux pour la santé. PIP était parvenu à tromper les organismes de contrôle dont l'allemand TÜV. Au moins 5 blessés graves dans une violente explosion à Boulogne-Billancourt près de Paris en cause une fuite de gaz. C'est un immeuble d'habitation qui a été touché. Des travaux étaient en cours sur place. 2 des 3 étages se sont effondrés. Plusieurs personnes ont dû être évacuées. Une nouvelle alerte à la pollution dans la vallée de l'Arve vers Chamonix après un répit de 2 semaines. Le niveau de particules est élevé. Les bassins lyonnais et grenoblois sont également concernés. Un nouvel épisode de pollution aussi en région parisienne. Le stationnement résidentiel sera gratuit demain dans la capitale. La municipalité vous conseille de privilégier les transports en commun. Et puis la 21e journée de Ligue 1 de foot. Bastia affronte Nice ce soir. Les Niçois confrontés à 5 absences de taille dans leur rang. Une rencontre qui signe le retour de Mario Balotelli. Coup d'envoi à 20h45. France Info, 20h33. La suite des informés avec Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, sur le canal 27 de la TNT. Et on continue à parler du monde selon Trump avec ce soir autour de la table Paul Ackermann du Huffington Post, également Virginie Lepetit, courrier international, Jean-Claude Jaillette de Marianne, Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au journal britannique The Telegraph, et Axel Kroos, correspondant à Paris du Transatlantique Magazine. Alors on continue à parler donc de Trump, officiellement donc intronisé aujourd'hui, 45e président des États-Unis. On a parlé de sa manière de gouverner, peut-être de ses plans pour l'avenir. Alors justement, on ne les connaît pas. Et maintenant, nous avons évoqué l'Amérique qui boude. Voilà, hein, celle qui n'était pas présente aujourd'hui, son opposition à Donald Trump. Est-ce que vous connaissez déjà Teresa Schuch? Alors Teresa Schuch, c'est une grand-mère hawaïenne qui un jour a lancé cette phrase à ses contacts Facebook. Et si les femmes défilaient massivement à Washington autour de l'investiture? Et autant le dire, c'est un tantinet dépassé, hein, et puisque cette marche sera l'événement demain de la protestation contre le nouveau président américain, réunissant tous les mouvements donc contestataires. Plus de 1200 cars en fait sont attendus à Washington. Hier à Washington également et à New York, des rassemblements ont réuni des protestataires avec quelques orateurs célèbres comme le réalisateur Michael Moore.
Pour la première fois dans l'histoire, nous avons un narcissique malveillant et un sociopathe qui occupent le bureau ovale. C'est un moment très dangereux. Quand ils viendront à New York pour emmener nos voisins mexicains, qui se lèvera devant le pont George Washington et criera « Il faudra d'abord me passer sur le corps ».
Voilà, Michael Moore, hier soir, donc, à New York, était également avec Alec Baldwin, avec Cher, oui, qu'on a revu Cher, en effet, voilà, toujours en forme. Alors, Axel Kroos, est-ce que finalement cette contestation, elle est importante ou ça concerne vraiment des villes, certaines villes comme New York, on parle aussi des États comme la Californie, ce sont quand même des villes et des États qui ont voté majoritairement démocrate. Est-ce que cette contestation, finalement, n'est pas, ne se concentre pas seulement sur quelques coins des États-Unis?
Oui, simplement, parce que c'est plus facile dans les grandes villes, c'est un peu comme en France, souvent des manifestations importantes se passent à Paris, au Marseille, dans les grandes villes. C'est la même chose aux États-Unis. Mais il faut jamais oublier que c'est Hillary Clinton qui a gagné l'élection, le vote populaire. Il y a énormément d'opposition, énormément de questions qui restent posées. Le discours de Trump, pour terminer ce que je pense là-dessus, il faut regarder qui avait dans la foule devant lui. C'était pour la plupart des gens qui ont voté pour Trump. Et eux ont applaudi, qui étaient enthousiastes. Il y a énormément d'Américains qui n'ont pas partagé cet enthousiasme. Et il va y avoir beaucoup de manifestations, secteur par secteur, ça dépend des questions.
C'est ça. Anne-Elisabeth Moutet.
Alors d'abord, je voudrais rappeler une chose, c'est que l'idée de vote populaire, c'est une absurdité politique, parce que comme le vote est un vote indirect et qu'on vote pour des grands électeurs, il y a des États et que aux grands électeurs, si vous gagnez l'État d'une voix, vous récupérez tous les grands électeurs de l'État. Il y a des États extrêmement peuplés, comme justement la Californie ou l'État de New York. La Californie, c'est 57 grands électeurs, je crois. Comme il ne s'agissait pas d'aller chercher des voix, il y avait certainement des sources de gens qui auraient voté républicain, et Trump n'a pas beaucoup fait campagne là-bas parce que ça ne servait à rien. Hillary Clinton a fait campagne, d'ailleurs elle a oublié de faire campagne dans 2-3 états où elle aurait vraiment dû, comme le Wisconsin, etc. Mais si l'élection américaine était différente, c'est-à-dire si c'était une élection avec un vote, une voix pour le président, à ce moment-là les campagnes auraient été entièrement organisées, financées, regroupées et faites de manière différente. Donc on ne peut pas juger la notion de vote populaire, ça ne correspond pas au même vote.
Paul Ackermann, justement sur cette contestation, pour vous, elle est réelle, ou alors c'est aussi, on le voit bien, c'est quand même des gens, c'est un peu l'élite aussi culturelle qui est là, qui manifeste contre Trump.
Enfin, aujourd'hui, c'est difficile à dire, je sais pas aux États-Unis, mais de ce qu'on voit au Huffington Post, où on est en contact avec les Américains, donc c'est le site, probablement un des médias les plus à gauche aux États-Unis, donc qui est à fond là-dedans. On avait Michael Moore en direct cette nuit, etc. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment énorme. Le thermomètre, ce sera demain, cette marche des femmes. Moi, j'avais pas entendu l'estimation de 200 000 personnes. Moi, je m'attendais à plus. J'ai l'impression que ça va être énorme. Ensuite, si ça l'est pas, je pense vraiment que ça pourra après se dégonfler assez rapidement.
Oui, c'est ça. Virginie Petit, pour vous, c'est une réalité?
C'est une réalité, et c'est quand même pas seulement une élite culturelle. Il y a quand même eu des mouvements à l'occasion du des journées de commémoration pour Martin Luther King, et c'était Black Lives Matter les gens qui étaient là n'étaient pas une élite culturelle. Les je ne sais pas si on peut parler de minorité, mais enfin, en tout cas, les Noirs américains, les Mexicains d'origine clandestine, il y a quand même un certain nombre de gens qui s'inquiètent énormément de l'arrivée de Trump au pouvoir, et à juste titre.
Jean-Claude.
Oui, mais la réaction et l'opposition est à la mesure des excès et des positions extrémistes de Donald Trump. Cela dit, il a quand même été élu et il faut se méfier de cette élection. Il n'a pas été élu tout à fait par hasard. Il n'a pas été élu sur une radicalisation d'un vote de droite. Il a été élu sur un refus des effets de la mondialisation et de la perception que portait précisément partie de cette opposition qui se manifeste aujourd'hui. Cette vision de la mondialisation heureuse.
Je voudrais poser une dernière question en fait à Axel Kruse qui va devoir nous quitter. En tant qu'Américain, vous-même aujourd'hui, ça y est, Donald Trump est président des États-Unis. Aujourd'hui,
ça va pas durer. Il y a énormément de gens qui ont peur. Par exemple,
ça va durer 4 ans quand même.
Obamacare, ce programme reste d'être démantelé par les alliés de Trump au Congrès, et il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui vont perdre leur assurance médicale. Ce sont des manifestations très très concrètes, et il y a bien d'autres questions qui vont se poser sur le protectionnisme, etc.
Sur les emplois également dont parle Trump, et sur sa vision de l'international.
Oui.
Également, c'est ça aussi qui peut inquiéter, quoi.
Je crois que on verra comment les autres pays vont réagir, mais les Chinois ont déjà réagi, et on a jamais évoqué cette question, mais les Chinois ont une position extrêmement importante vis-à-vis de la fragilité de notre système monétaire. C'est grâce aux Chinois que nous finançons notre dette avec des milliards de dollars. Et c'est ça pourquoi j'ai dit il n'est pas simplement America first, mais il est aussi America seul. Et cette partie seule, je crois, va aussi déclencher beaucoup, beaucoup de résistance et d'attaques par les alliés en Asie et en Europe.
Merci beaucoup, Axel Kruse, correspondant à Paris du Transatlantique Magazine, d'être passé ce soir aux informés de France Info. L'info à 20h40, c'est Pierrick Bonneau.
Donald Trump est le nouveau président des États-Unis depuis maintenant 2 heures. Le magnat de l'immobilier a prêté serment à 18h précises sur les marches du Capitole, juste après son vice-président Mike Pence. Donald Trump s'est ensuite exprimé à la tribune. Il a remercié le magnifique président Obama. Le 45e président des États-Unis promet un grand effort national pour reconstruire le pays et veut placer l'Amérique d'abord. Nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur. Voilà les derniers mots qu'a prononcé Donald Trump devant Barack Obama, bien sûr, mais également Bill et Hillary Clinton ou encore George W. Bush. Quelques minutes avant la cérémonie, François Hollande a une nouvelle fois taclé le président Trump. Le président français dénonce son protectionnisme. Ce n'est pas la première fois. Si l'on fermait les frontières comme le président élu voudrait le faire, alors ce serait la remise en cause du travail partout où il peut être fait. Fin de citation. 2 étages d'un immeuble de Boulogne-Billancourt complètement soufflé cet après-midi par une explosion d'origine accidentelle. Au moins 5 blessés, dont 3 dans un état grave, mais pas de victimes a priori. C'est une fuite de gaz qui semble être à l'origine de l'accident. Des travaux étaient, semble-t-il, en cours dans l'immeuble. La menace d'un conflit armé se dissipe en Gambie. Le président Yahya Jammeh, à la tête du pays depuis 1994 et battu aux dernières élections, accepte ce soir de quitter le pouvoir et de partir en exil. Des troupes de la CDAO menées par le Sénégal et le Nigeria étaient entrées hier en territoire gambien pour le forcer à partir.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Paul Ackermann du Huffington Post, Virginie Petit de Courrier International, Jean-Claude Jaillet de Marianne et Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au journal britannique The Telegraph. On va parler de la politique française dans un instant, mais encore un mot sur Donald Trump. C'est inépuisable en fait, hein. C'est un puits sans fond. Virginie Petit, bien sûr. Alors ça peut paraître anecdotique par rapport à la tâche qui attend Donald Trump et surtout la manière dont on va vivre avec lui pendant 4 ans, mais c'est ces histoires de tweets, parce que c'est assez représentatif. Non, mais lui dit c'est le média le plus simple pour moi, c'est comme ça que je vais. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il est président ? C'est-à-dire que ce soir, on se souvient de Barack Obama à qui on avait supprimé son téléphone pour ses tweets et d'aller sur Facebook. À votre avis, aujourd'hui, Donald Trump, il va continuer à tweeter en tant que président des États-Unis ?
Et c'est la question. Alors, c'est plutôt avec quel outil va-t-il tweeter ? Parce que il ne pourra pas tweeter depuis son téléphone personnel pour les mêmes raisons, qui sont des raisons de sécurité et qui sont évidentes. Mais après, s'il a accès à... pourquoi pas un terminal qui lui permet de tweeter en toute sécurité.
Ah, mais on imagine oui, tout le monde en train de regarder, surtout pas de clavier, attention. Mais,
puisque là, son discours est dans la continuité, on peut imaginer qu'effectivement, il continue à tweeter.
Il a dit qu'il allait tweeter.
Mais oui, lui, il l'a affirmé.
Il a même dit qu'il allait continuer à tweeter avec son compte personnel, c'est-à-dire Real Donald Trump, et pas avec le compte du président des États-Unis dont il hérite, POTUS, parce que il dit d'abord, j'ai plus d'abonnés sur mon compte à moi. Et puis, il a dit, c'est le moyen le plus rapide que j'ai pour de répondre à la calomnie. Alors, on peut se dire, enfin, quand on est président, on répond pas à tout le monde, mais à chaque fois qu'il fait un tweet, le cycle de l'actualité s'empare du tweet et en parle. Et donc, question caisse de résonance, c'est absolument sans commune mesure. Donc, on voit des avantages, il y a certainement des inconvénients, je pense qu'on va les voir assez rapidement, mais les avantages ne sont pas inexistant.
Alors justement, Paul Kerman, vous le disiez, il tweet beaucoup le soir, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, on peut avoir le même tweet contre Meryl Streep que contre, on va dire, Angela Merkel ?
Ben, on verra. Et c'est le truc, c'est que je pense que s'il avait dû arrêter, il aurait arrêté avant, parce que ça fait maintenant un mois, enfin depuis l'élection, plus d'un mois, qu'il n'arrête pas, qu'il s'attaque pas à Angela Merkel, mais à Schwarzenegger, enfin à des seconds couteaux qui devraient vraiment ne fait pas faire partie de ses priorités. Je vois pas pourquoi il aurait continué pendant toute cette période et qu'il arrêterait maintenant. Et puis sur Barack Obama, on lui avait retiré ses BlackBerry pour des raisons de sécurité, c'est pas ça qui va l'empêcher de tweeter. Tweeter, il suffit d'avoir un accès à Internet et ça, il l'aura, donc il pourra tweeter. Ça, je n'ai aucun doute.
Là, j'ai petit, vous vouliez rajouter
ce que vous avez... En fait, je voulais revenir un instant sur la Chine, qui effectivement est assez... il y a une colère froide, en fait, contre Donald Trump après qu'il s'adressait directement à la présidente de Taïwan et après un certain nombre de choses. Et ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y avait eu des consignes données aux médias chinois de minimiser l'événement. Donc, l'investiture de Donald Trump n'étant une d'aucun journal chinois, on parle de Xi Jinping, on parle de bien d'autres choses, et ils ont reçu l'ordre de minimiser l'événement. Et par ailleurs, effectivement, ce qui se passe, c'est que Donald Trump, en jouant l'isolationnisme, hein, c'est au-delà du protectionnisme, hein, c'est l'isolationnisme, laisse le champ libre à la Russie sur le terrain, on va dire, militaire, diplomatique, mais à la Chine sur tout ce qui est commerce mondial. Et la Chine va s'en emparer. C'est un boulevard qui s'ouvre devant elle. Et ça va être intéressant aussi.
Et la Chine a réagi tellement vite, elle a créé un marché commun de l'Asie du Sud-Est. Déjà, elle a fait ça en quelques mois. C'est-à-dire, entre le moment où on a vu Trump arriver et son inauguration, on a un accord entier qui a été signé par les partenaires économiques de l'océan, de la mer de Chine.
Oui, je voulais revenir sur les tweets. Bien sûr. On a bien eu en France un président qui a persévéré dans ses habitudes de communiquer avec les journalistes et de dialoguer avec les journalistes. Et pourquoi on n'aurait pas un président aux États-Unis qui continue à, quoi qu'on en pense, à tweeter alors qu'il tweetait auparavant? C'est effrayant. C'est effrayant comme manière de faire de la politique, même y compris au niveau international.
La différence avec Hollande, c'est que ça a pris 4 ans pour lui exploser au visage. Là, ça prendrait 2 semaines.
Effectivement. C'est ça. Mais le tweet,
si il s'attaque effectivement à la Chine ou à Angela Merkel, comme il s'est attaqué à Schwarzenegger ou à Meryl Streep, c'est des crises d'une rapidité extrême.
Mais quand vous dites effrayant, finalement, Jean-Claude Jaïf, pour lui, il dit c'est le meilleur moyen aujourd'hui. Alors je cite un Donald Trump, c'est de contrer une presse qui me critique sans arrêt. Moi, je rétablis la vérité.
Oui, parce que ça va tellement vite dans le tweet que très vite on voit comment l'injure remplace le dialogue et la discussion politique. Est-ce qu'on peut gouverner en injuriant ses partenaires, ses voisins? Une vision de la politique est totalement effrayante. Et on voit bien quel rapport ça a avec le contexte de l'extrême droite.
Malgré tout, beaucoup plus compliqué de persister dans cette posture de persécuter maintenant qu'il est au pouvoir et aux manettes. On ne peut pas rester constamment à persécuter quand on a gagné. C'est pas possible, ça. Donc ça va être compliqué. Il va être sur le fil là-dessus.
Il faut rappeler qu'il a insulté Angela Merkel dans un médium complètement traditionnel, puisque c'est à une interview au Times de Londres où il a dit grave erreur d'ouvrir le pays aux migrants, c'est elle qui a causé le Brexit. Ce qui, entre parenthèses, n'est pas idiot. Les Anglais, en réalité, qui ont voté pour le Brexit n'avaient pas tant peur de l'immigration de l'intérieur de l'Union européenne, qui est la seule concernée par l'appartenance ou non de la Grande-Bretagne au marché commun.
Il n'y avait
commun.
Pas que ça aussi, hein, Elisabeth. Il y avait
mais l'idée que un pays dans l'Europe qui voilà. pouvait plus ouvrir. Que les
alors une chose, non, une chose justement. Alors attendez, Elisabeth Ponte, Paula Carman, justement, aujourd'hui, on en parlait de cette posture. On ne peut pas avoir la même posture, pardon, quand on est en campagne que quand on est au pouvoir. On en parlait dès le début.
On ne peut pas. Alors, on verra. Tout est possible avec lui.
Cette posture justement populiste. Aujourd'hui, je rappelle donc ce qu'il a dit pour ouvrir son discours. C'est nous transférons le pouvoir de Washington à vous, le peuple. Quand on voit ces ministres qui sont millionnaires ou milliardaires, lui-même milliardaire ou millionnaire, comment aujourd'hui on peut encore avoir cette posture?
C'est Washington hein, qui, aujourd'hui, au début du discours, c'était vraiment Washington qui était visé. C'est pas les milliardaires, c'est pas Wall Street, c'est pas ça, non. C'est le Congrès, l'establishment de Washington. Et effectivement, il était entouré de ces gens-là qui avaient une sorte de sourire figé ou de Obama qui donnait le change d'une zénitude hallucinante.
Et vous voyez, en fait, c'est juste, c'est souvent cette posture populiste de critiquer alors qu'on en vient de ce système. Et est-ce qu'on peut continuer à dire...
Il vient pas du système de Washington, il n'a jamais été élu.
Populiste, c'est-à-dire aujourd'hui, il est quand même issu d'une famille qui avait... C'est un héritier, hein, Donald Trump. Hein,
oui, mais il n'a jamais participé au système politique central américain. Et puis, il peut dire, voilà, maintenant, je suis arrivé... Il donne cette image, c'est un héritier en partie, il a quand même multiplié la fortune, donc j'y suis aussi arrivé par mon travail et j'ai envie je prends du recul par rapport à ça et de faire justice si on veut. Du point de vue du fan qui pourra écouter ça.
Bien sûr.
Je pense que ça passe quand même. Et le fait qu'il ait jamais baigné dans le swamp, comme il l'appelle.
Qu'est-ce que c'est le swamp?
Le swamp, donc c'est le marais de Washington. De ce petit milieu qui... C'est comme ça qu'il le vend.
BTS, Drain the Swamp, qui met à chacun...
Il a financé le Parti démocrate à New York pendant des années.
Ouais, bien sûr. Bah, oui, non, bien sûr.
Il était républicain. Il donnait des deux côtés. Voilà. C'est
vraiment le candidat indépendant. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Allez, dans un instant, on va parler de la France, hein, puisqu'il faut bien parler. Il y a bien sûr des élections. Oui, Elisabeth Moutet, mais il y a des élections dimanche. C'est le premier tour de la primaire de gauche. Il n'y a pas que Donald Trump. Ça, c'est dans un instant. Pour l'instant, l'info à 20h50, c'est Pierrick Bonneau.
America First, à partir d'aujourd'hui, ce sera l'Amérique. D'abord, le discours d'investiture de président Trump sur les marches du Capitole à Washington. Le milliardaire est devenu ce soir le 45e président des États-Unis. Ma présidence va montrer la voie à l'Amérique et au monde pour des années, a lancé Donald Trump à la foule. Pour son premier discours de président, il a ressorti son thème favori, le protectionnisme, et énoncé deux règles, acheter américain et embaucher américain. Un discours d'une vingtaine de minutes qui s'est achevé sous la pluie. Un homme n'était pas devant sa télévision ce soir et le Kremlin a pris la peine de le faire savoir. Cet homme, c'est Vladimir Poutine, le président russe. La cérémonie était trop longue, a précisé tout à l'heure son porte-parole. Et pendant sa campagne, le 45e président des États-Unis a souvent affiché sa proximité avec Moscou. Du nouveau ce soir dans l'affaire de Viry-Châtillon, 7 personnes mises en examen et écrouées pour tentative de meurtre après l'agression de 4 policiers. En tout, 11 personnes ont été interpellées mardi. L'agression de policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne en octobre avait déclenché un mouvement de grogne sans précédent des gardiens de la paix en France. Le monument avait été érigé au 1er siècle de notre ère. Le chef des antiquités syriennes annonce que le théâtre romain de Palmyre a été réduit en miettes par les djihadistes de l'État islamique. De nouveaux trésors archéologiques détruits par Daesh qui a reconquis la cité antique en décembre dernier. Et puis une bonne nouvelle, dans le centre de l'Italie, les 10 survivants ensevelis sous les décombres ont été retrouvés vivants après l'avalanche de mercredi, 48 heures après le drame.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, attention, trou d'air, hein, là on change totalement d'ambiance puisqu'un président rentre en fonction aux États-Unis et en France, on cherche notre prochain en fait. Hein, alors sera-t-il de gauche, de droite? En tout cas, un ou une sera à l'Élysée le 7 mai prochain. Dimanche, c'est le premier tour de la primaire de gauche. Hier avait lieu le dernier débat à 7 et on a parlé alors des hommes et même de libre-échangisme. Alors là, on peut parler de sensualité justement et en fait, tout était beaucoup plus sérieux. Un était content de venir, c'est Benoît Hamon, il a gagné sa soirée, hein, il pensait passer une soirée plutôt tranquillou, mais avec son revenu universel, il s'en est pris plein la binette. Et puis, il pensait ne pas en parler, mais c'est plus fort que Emmanuel Macron a occupé la fin du débat. Et notamment, vous allez l'entendre, Vincent Peillon, puis Arnaud Montebourg.
On l'a connu, secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'était charmant. Aujourd'hui, il mène une aventure. C'est, vous savez, l'enfant prodige. Il est parti, il reviendra.
Excusez-nous, j'ai besoin juste de comprendre quel est son programme. Comme disait quelqu'un, quand c'est flou, il y a un loup.
Alors, on ne sait pas qui a ri comme ça. En tout cas,
Manuel Valls.
Voilà, Manuel Valls. C'était la blague de la primaire, en tout cas. Jean-Claude Jayet, finalement, aujourd'hui, c'était donc le troisième débat, troisième dernier. Finalement, donc, cette primaire, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a pu dire, les tempêtes, elle s'est tenue aujourd'hui.
Oui, elle s'est tenue. Elle était intéressante et plutôt de bon niveau, je trouve. Alors que l'enjeu est quand même assez terrible. Moi, en regardant hier soir une nouvelle fois ce débat, je me disais mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un électeur de gauche aujourd'hui? Ça doit être absolument terrible parce que on leur demande quand même d'aller voter dimanche pour élire quelqu'un qui a 85% de chance, allez, disons peut-être 90% de chance de pas se retrouver au deuxième tour et donc de pas figurer dans la finale de l'élection présidentielle. Donc c'est une élection pour pas grand-chose. En même temps, un électeur de gauche, il se dit, dans ce contexte de la primaire et venant après les primaires de droite, il se dit, je dois aller faire mon devoir pour ma famille de gauche, donc je dois aller voter. Mais pour qui je vais voter? Moi, je regarde autour de moi et j'interroge des gens. Les électeurs de gauche, un, ne savent pas aujourd'hui, à 24 heures de l'élection, c'est extrêmement flou, ne savent pas s'ils vont voter, s'ils vont aller voter, et dans le cas où ils sont quand même décidés à aller voter, ils ne savent pas pour qui aller voter. Donc c'est absolument terrible ce qui se passe.
Paul Carman, justement, alors est-ce que ces débats, au départ une primaire qui devait servir à trouver une ligne, est-ce que ça a permis de voir plus clair? Vous trouvez?
Non, enfin tout le monde est resté quand même sur ses positions. Par rapport à la mobilisation, moi je la sens pas très bien parce que le phénomène qu'il y a eu pendant la primaire de droite, qui était, on sentait bien une sorte d'appel d'air, soit anti-sarkozyste, soit anti-Marine Le Pen, soit échappons à tout prix à la gauche, les gens avaient l'impression d'élire le prochain président. En
c'est
gros.
Ça, exactement.
Là, il marche pas du tout parce qu'en fait d'un côté, si vous êtes à la gauche de la gauche, vous dites bon, de toute façon, si c'est Valls qui passe, je voterai Mélenchon. Si vous êtes à la droite de la gauche, enfin au centre gauche, vous dites si Valls passe pas, bah, de toute façon, je voterai Macron. Donc il y a un côté, il y a pas du tout. Il faut absolument que j'aille voter pour sauver mon pays. Donc et comme il y a personne qui se dégage non plus comme le sauveur, à part une sorte de buzz Macron qui a depuis quelques semaines, mais enfin qui prend pas l'ampleur quand même du phénomène Fillon qu'il y avait à droite, il va vraiment falloir vouloir braver le froid dimanche pour aller voter.
C'est ça, on dit souvent que cette primaire ne concernait que le cinquième de la présidentielle. Bon, on ne sait pas du tout. Anne-Elisabeth Moutet, rapidement, il y a une chose quand même qui monte là en ce moment, on le voit. Les Français ont été habitués finalement au débat, c'est-à-dire qu'il y a eu des primaires de droite, il y a eu quatre débats, en fait, avec le débat de second tour. Là, il y en aura quatre également, avec un débat de second tour mercredi prochain. Ça veut dire que, finalement, à votre avis, est-ce qu'il faudrait avoir ces débats entre les candidats de la présidentielle, tous ensemble? Est-ce que ça pourrait être un exercice intéressant?
Écoutez, de toute façon, on vient de le faire et la télévision n'a pas totalement perdu ses auditeurs au moment où ils sont passés.
Non, ils ont perdu un petit peu. Voilà, qu'il y avait section de recherche hier sur TF1. Donc, aussi,
la primaire de gauche, ça devenait un petit peu ennuyeux. Mais d'abord, la primaire de gauche n'est pas une primaire de gauche, c'est une primaire d'une partie de la gauche. La droite de la gauche n'est pas là et la gauche de la gauche n'est pas là. Alors, je pense que ça va vraiment... L'année dernière, on a eu la grande guerre entre Fillon et Copé pour prendre les Républicains. Ensuite, maintenant, ils ont appris qu'il fallait accepter le résultat d'une primaire sans se plaindre. Et à gauche, il faut qu'ils apprennent à tous se mettre dans la même primaire ensemble. Et je pense qu'à la prochaine, ils seront au point. Mais sinon, oui, il faut des débats. Il est absolument évident que les électeurs, ils ont vraiment envie qu'on leur pose la question. J'ai pas envie de reparler de Trump, mais c'est pas faux que le Pékin moyen se sent totalement ignoré.
Mais le problème pour la présidentielle, c'est qu'il y a trop de monde.
Faudrait tirer au sort.
168.
Ça doit se terminer. Les informés de France Info, désolé Virginie Le Petit. C'était assez court. Mais là, le vote, c'est dimanche. Et je vous conseille d'écouter le lundi.
Une surprise
spéciale.
Sylvia Pinel.
Alors, en même temps, vous ne vous mouillez pas trop parce que les surprises en ce moment, c'est tous les jours. Merci beaucoup, Paul Carman. Je rappelle donc lundi, d'ailleurs, vous fêtez les 5 ans de Huffington Post.
C'est la fête. Le lendemain de l'élection, donc on aura deux grosses actus pour nous.
Voilà, 5 ans de Huffington Post installé en France. Et vous êtes content?
Très content. C'est une progression constante depuis 5 ans.
Bon, en tout cas, vous êtes toujours les bienvenus aux informés de France Info. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth Moutet. La une de Cour internationale, Virginie Petit, cette semaine.
Trump A à Z, le dictionnaire pour tout savoir du nouveau président américain.
Et Jean-Claude Jayet, la une de Marianne cette semaine. Je crois que c'est sûr, vous avez une interview, pas de
Mélenchon.
Voilà, exactement.
Une très belle interview de Mélenchon.